passer dans la deuxième phase de cette conférence de presse avec la séance des questions-réponses. Veuillez éteindre vos téléphones portables ou mettez-les sous mode silencieux. Et pour tous ceux qui voudront prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Nous commençons par Kinshasa par deux questions. Une question par la gauche, de préférence une dame. Oui, madame.
C'est Marc Bossoandolé pour l'agence France Presse. La question c'est à Monsieur Kobler. Et vous venez de faire votre compte rendu de votre visite en Ituri. Et j'aimerais savoir par rapport à l'opération conjointe contre les FRPI, est-ce que la MONUSCO, c'est juste une question de précision, la MONUSCO a donné son soutien logistique comme d'habitude ou bien c'est vraiment un soutien offensif? Et aussi, on peut connaître les bilans de cette opération. Et peut-être une deuxième question, si vous le permettez, par rapport à la situation des Kotakoli que le porte-parole militaire par intérim a évoqué. Est-ce qu'on peut savoir où en est-on avec le processus DDR dans ces coins? Merci.
Voilà, merci bien pour les questions. Le soutien de la MONUSCO dépasse le soutien logistique. Oui, c'est le soutien logistique, la nourriture et le transport et tout ça. Mais c'est beaucoup plus. On planifie les opérations ensemble et c'est un combat ensemble. Ce sont nos hélicoptères attaques qui sont utilisés. Ce sont nos drones qui gagnent le renseignement pour les opérations, pour identifier les positions. Et puis, on lance des attaques avec les hélicoptères attaques chaque jour sur les positions. Ensemble avec les FRDC, c'est une action des FRDC, naturellement. On soutient les FRDC, mais ça dépasse la logistique. Ça dépasse la logistique, c'est une vraie opération conjointe, planifiée conjointement avec les FRDC contre les FRPI. Et on a neutralisé entre 20 et 30% des FRPI dans les dernières 4 semaines. Ou 3 semaines maintenant. Alors, et ça montre encore une fois que l'unité fait la force, parce que les FRDC, ils sont en charge du plan, mais aussi c'est votre pays. Mais on peut vraiment leur donner tous les moyens que nous avons à notre disposition, comme les hélicoptères, notre transport ici. Le bilan, Félix me donne les chiffres ici, ça correspond avec ce que j'ai vu. Ce sont 35 tués, ce sont 52 blessés et ce sont plus de 31 rendus, ce sont 36 rendus. J'ai vu hier aussi les 4 blessés des FRPI dans l'hôpital à Bounia, j'ai parlé avec eux. J'ai parlé très intensivement avec les combattants qui se sont rendus des FRPI, une trentaine, qui sont dans notre base par là. Et c'était quelque chose, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous combattez? C'est quoi l'objectif du combat? Et je n'ai pas pu obtenir une réponse. Ils ont dit, alors, on nous donne les instructions pour combattre. Si je parle avec les FTLR, alors c'est très clair, ou les ADF, alors ils ont quelque chose, ils ont une réponse. Mais les FRPI, c'est le premier groupe armé où je n'avais pas une réponse pourquoi ils combattent. C'est pourquoi mon appel aussi aujourd'hui, maintenant, pour les FRPI, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, abandonnez les armes maintenant. Si vous êtes blessé, vous pouvez venir dans nos hôpitaux. Nous avons un hôpital de haut niveau avec les docteurs, les médecins marocains à Bounia. Vous êtes bien traité, vous n'êtes pas tué. Alors, comme dit votre propagande, venez chez nous. Venez dans nos camps de DDR maintenant pour avoir une vie et être réintégré dans la vie civile. En ce qui concerne Kotakoli, j'étais pas ici où Félix l'a dit, mais Kotakoli, c'est une grande préoccupation pour nous. J'étais moi-même à Kotakoli il y a 4 mois, quelque chose comme ça, au mois d'avril. J'étais là à Kota Koli parce qu'on avait des rapports qu'on a des problèmes. Et j'ai même, sous l'ancien ministre de Défense, nous avons demandé de relocaliser les ex-combattants de Kota Koli à Kitona ou Kamina, les autres grands camps de DDR. Demain, mon adjoint va se déplacer à Kota Koli encore une fois pour voir avec ses propres yeux, ensemble avec nos collègues de DDR, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre assistance. Nous avons toujours demandé avec le nouveau ministre de Défense, de relocaliser, de transférer les ex-combattants dans les autres camps. C'est très urgent et maintenant on avait ces événements. On va essayer la même chose. Encore une fois, c'est pourquoi j'ai instruit mon adjoint d'y aller demain.
Juste pour rappeler à la suite de M. Kobler que déjà le 3 février 2015, il y avait eu un premier mouvement d'humeur et la MONUSCO s'était portée volontaire et avait apporté tout son soutien logistique pour résoudre les problèmes logistiques qui se posaient au niveau du camp. Et cette fois-ci encore, nous sommes disposés à apporter tout notre soutien aux autorités gouvernementales pour résoudre cette question de Kota Koli. Merci M. Kobler. Nous allons à droite, ici à Kinshasa, une deuxième question. Oui, donnez le micro.
Merci. Je suis Anthony Chamba, journaliste Raga Télévision. J'ai une petite question, si vous me permettez, en liminaire, et puis je vais poser ma question à M. Kobler. La question en liminaire, M. Basse, aujourd'hui, nous sommes entrés quand même sans anicroche. J'ose croire que la situation est harmonisée. J'aimerais en savoir où est-ce que vous en êtes avec cette situation. Et puis, pourquoi la MONUSCO, qui est connue comme étant un grand défenseur des droits de l'homme, s'est mise subitement comme ça à bafouer les droits de l'homme. À M. Kobler, ma grande question est celle de savoir, vous avez suivi les consultations du chef de l'État, vous y avez même participé, je vous ai vu sur les images, mais l'aile dure quand même de l'opposition n'a pas rencontré le chef de l'État. Et puis, cette aile dure menace même de boycotter la session extraordinaire du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Parlement, si jamais cette session extraordinaire est convoquée. Mais quelle est la situation d'après vous? Quel est le tableau qui se présente devant nous? Les gens qui ne vont pas rencontrer le chef de l'État pour ces fameux dialogues, et puis qui vont boycotter la session extraordinaire. Quelle lecture vous faites de ces tableaux, Monsieur Kobler? Merci.
Merci pour votre question. Vous me permettrez de vous dire que je ne partage pas vos allégations sur la façon dont la MONUSCO traite ses fonctionnaires. N'oubliez pas qu'aussi au sein de la MONUSCO, nous constituons une famille. Et d'ailleurs, je pense que ces mouvements d'humeur traduisent du dynamisme de nos relations. Et sans pour autant vous cacher la chose, il faut reconnaître que ce personnel, ce staff national de la MONUSCO constitue la colonne vertébrale de la mission et que nous ne cesserons jamais de les remercier pour tous les sacrifices qu'ils ont faits pour accompagner la MONUSCO jusqu'au point où nous en sommes. Et actuellement, il faut se féliciter aussi d'autre chose. C'est que le contact, le dialogue n'est pas rompu avec l'administration. D'ailleurs, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a eu un allègement dans le dispositif qui avait été mis en place la semaine dernière, ce qui veut dire que tout simplement, nous continuons à discuter avec nos camarades de la mission, parce que je le rappelle que nous formons une seule famille, afin de trouver des solutions idoines qui pourront à la limite satisfaire ce personnel-là, mais garder aussi à l'esprit que la MONUSCO ne pourra peut-être pas satisfaire tout le monde. Mais des efforts sont faits justement pour prendre en compte ces revendications-là et voir comment au mieux gérer cette situation. Monsieur Kobler.
Voilà, merci bien. Justement pour ajouter, parce que nous avons eu une vidéoconférence avec tout le monde tout à l'heure le matin sur ce sujet du staff national aussi. Alors, je ne peux pas partager votre vue que c'est une violation des droits de l'homme. Hein. Alors, on a plusieurs groupes ici. Je comprends leur inquiétude. J'étais hier à Bunia et les collègues m'ont dit qu'ils n'ont pas été payés pendant 2 mois. Et puis je leur ai dit, alors, ça doit arrêter maintenant. Nous avons pris maintenant les actions qui sont payées pour les 2 mois jusqu'à vendredi. Et j'ai expédié à un collègue de Goma d'y aller et de leur expliquer pourquoi le salaire n'est pas payé. Et ces choses, je peux comprendre. Et je peux comprendre que les collègues à Bunia sont en crève. Si je ne suis pas payé aussi moi-même, alors je peux survivre. Mais alors je ne vais pas travailler sans argent. Alors c'est pour le chef de la mission la même chose comme pour ceux qui nettoient ici nos chambres. Alors c'est, je peux comprendre, ils doivent être payés. Qui travaillent doivent être payés. Une autre chose, c'est la réduction de la MONUSCO. C'est quelque chose, vous savez très bien, le gouvernement veut que 2000 troupes partent du pays. Les 2000 soldats, ils partent du pays maintenant. On a déjà 1000 qui sont partis. Merci, ouais. Et tout l'effet administratif, si les traducteurs, on n'a pas du boulot pour les traducteurs, pour des troupes qui ne sont pas ici. Aussi, les traducteurs doivent être, alors les contrats ne peuvent pas être étendus. C'est pourquoi... C'est aussi un problème. Il faut réduire la mission et ça a un effet aussi sur le staff national, hein, comme l'exemple des traducteurs. Mais le gouvernement a dit vous devez réduire beaucoup plus. Hein, mais on réduit maintenant 2000 seulement. Mais au cours des années, il faut réduire beaucoup plus et ça a aussi un effet. Mais comme Félix a dit, je lutte pour le statut. Pour le statut contractuel du staff national, la question des salaires, nous avons par exemple aussi un programme de outsourcing. Hein? Comment est-ce qu'on dit en français outsourcing? Alors d'avoir des contrats par les organisations privées comme Sanibauté. Mais Sanibauté paie seulement la moitié que nous avons payée. Et si je dis, ce n'est pas juste. Voilà, ça correspond au standard international de payer 100 ou 105 dollars. Mais ce n'est pas notre système de valeur des Nations Unies. C'est pourquoi je vais changer ce système. Si on charge d'autres organisations qui sont d'ici, aussi UNOPS, ça ne peut pas avoir l'effet que les gens sont moins payés. Alors ce sont des problèmes. On va le discuter avec... le staff national, et on va trouver une solution. Mais le staff national, on a ceux qui restent ici, on va trouver une solution, mais pour ceux qui perdent leur boulot parce que nous devons réduire, on n'a pas une solution que de les enlever. Non, alors je voudrais... Alors, on va trouver une solution pour ceux qui restent, pour ceux qui ne restent pas. Alors, c'est partout dans le monde entier. On n'a pas une solution que de terminer les contrats parce qu'on n'a pas de boulot. Dans quelques années, alors toute la MONUSCO sera disparue. Hein? Alors, c'est pourquoi aussi le staff national n'a pas de boulot. On commence maintenant avec 2000 soldats, avec aussi les internationaux. On réduit les internationaux aussi, pas seulement les nationales. On a 10% des nationales, des internationaux, des contrats internationaux qui ne sont pas prolongés, pas seulement les nationales. En ce qui concerne votre deuxième question, voilà, le dialogue politique du président, je crois, c'est une bonne chose. Nous avons offert nos bons offices, comme vous savez, nous avons parlé les ambassadeurs du Conseil de sécurité et d'autres ambassadeurs, ensemble avec la MONUSCO, nous avons parlé avec le président qui nous a informé il y a une semaine, 2 semaines maintenant, dans le cadre des consultations, pas du dialogue politique, le président a dit, ce sont des consultations qui peuvent mener à un dialogue politique sur les questions électorales, le calendrier électoral, mais aussi la question de nouveau majeur. C'était fort intéressant et le gouvernement nous a dit alors qu'il souhaite aussi l'implication de la communauté internationale dans ce processus. Ce n'est pas encore clair comment le faire, mais nous avons dans notre mandat, vous le savez, les bons offices. Mais les bons offices, il faut deux parties pour les bons offices. Hein. Ceux qui l'offrent et ceux qui reçoivent les bons offices, on ne peut pas le faire contre la volonté de quelqu'un, mais si ça, c'est la volonté des deux, du président, du gouvernement, mais aussi de l'opposition, et je parle dans une manière structurée avec toutes les forces oppositionnelles, aussi sur le boycott, pour avoir leur point de vue sur leur position, sur le calendrier électoral, sur leur position, sur l'inclusion de nouveaux majeurs dans le processus électoral. Je crois maintenant que c'est une discussion qui est très très féconde. Parce que notre position est claire, ce sont des élections paisibles et crédibles. Alors c'est notre, nous sommes impartiales en ce qui concerne les positions politiques, mais nous ne sommes pas neutres, parce que nous avons notre résolution. La résolution dit le calendrier électoral qui est dans la Constitution menant jusqu'au novembre 2016 doit être respecté. La Constitution doit être respectée. Et ce sont des choses qui sont dans la résolution, c'est très transparent, et ce sont nos principes. Mais toutes les autres choses, comment se l'organiser, le soutien de la communauté internationale, les détails budgétaires, les détails du calendrier électoral, ça doit être discuté au sein du CENI, avec l'abbé Malo Malo, qui est de retour maintenant, qui gère ce processus et qui a aussi une discussion avec l'opposition et la majorité. Et si les partis le désirent, nous sommes prêts de les assister ici.
Merci, monsieur Kobler, pour ces précisions. Nous allons rendre l'antenne à Radio Okapi, mais nous poursuivons ce débat avec Goma, où les gens s'impatientent. Goma, à vous, deux questions, s'il vous plaît.
Merci, Félix, pour aller dans la même lancée. Goma commence aussi par une dame. Madame, vous avez la parole, à gauche.
C'est mademoiselle Mireille Masika de la RTNC Goma. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. Qu'en est-il alors de l'opération Sokola D d'une manière synthétique, s'il vous plaît?
Merci, madame. La MONUSCO répond toujours à toutes les sollicitations des FARDC. Et la MONUSCO continuera de soutenir les FARDC tant que nous serons sollicités. Merci.
Merci. Juste pour
la deuxième question.
Juste pour rajouter à la suite du porte-parole militaire que nous appelons de tous nos voeux cette reprise de la coopération militaire, particulièrement dans le cadre de Sokola 2, parce que ce sont des opérations qui ont été planifiées conjointement au moindre détail, et comme l'a dit le représentant spécial tantôt, l'union fait la force. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de l'opération Sokola 2 tout simplement parce que nous n'y prenons pas part. Une deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Deuxième question à ma droite.
Merci.
Vous présentez, oui.
Allez. C'est Nicholas Long de la Voix de l'Amérique. J'ai deux questions, s'il vous plaît. D'abord, dans quelle mesure la MONUSCO collabore avec le gouvernement dans le processus de DDR des ex-combattants congolais? Et deuxième question, si le STAREC a la mission de créer des emplois, pourquoi l'unité d'appui à la stabilisation de la MONUSCO n'a pas engagé des experts dans le domaine de création d'emplois, comme des économistes, des experts de l'entrepreneuriat, des agronomistes, etc.?
Monsieur Kobler.
Voilà, merci bien. En ce qui concerne la participation au programme DDR, nous avons un trust fund ici qui est ouvert par la Banque mondiale. La MONUSCO, nous avons 6 millions de dollars que nous utilisons même maintenant. Le processus de démobilisation et de réintégration n'a pas encore commencé. Ça doit être clair. Les ex-combattants de janvier 2014, ils sont à Kamina, ils sont à Kitakoli et Kitona, mais le processus de réintégration, des courses et tout ça, ça n'a pas encore, encore commencé, mais on participe avec 6 millions de dollars de la MONUSCO maintenant dans le programme. La communauté internationale est un peu, comment est-ce qu'on dit, réticent pour donner plus d'argent maintenant, parce que la contribution du gouvernement congolais n'est pas clair. Parce que le gouvernement congolais, ils avaient dans leur plan de PNDDR numéro 3, 10 millions de dollars. On a maintenant 1,5 million de dollars qui sont là, plus les 6 millions de dollars de la MONUSCO. Alors on peut survivre, mais on ne peut pas, il faut avoir plus d'argent pour établir des programmes. Alors c'est la contribution de la communauté internationale. C'est pourquoi moi, je gère je préside cette réunion de coordination sur le DDR, parce que maintenant, on a un ministre de défense qui est très très actif en ce qui concerne maintenant de lancer les programmes. C'est pourquoi c'est ma tâche aussi de convaincre la communauté internationale de vraiment remplir le trust fund de la Banque mondiale avec de l'argent, parce que sans l'argent, on ne peut pas agir. L'emploi, vous avez tout à fait raison. On a deux grands problèmes, c'est l'infrastructure dans le pays et l'emploi. Il faut se focaliser plus sur les programmes emploi, avec des programmes d'emploi, l'agriculture, très important, à l'Est. Mais une remarque, si vous permettez, c'est le rôle du secteur privé. Parce que je suis convaincu, avec tous les programmes, nous n'avançons pas, alors suffisamment. Nous avançons, mais pas suffisamment sans le secteur privé. Tsai Jinit a parlé avec le chef de la République sur une conférence du secteur privé le début de l'année prochaine, parce que je crois le vrai progrès économique du pays, ça vient du secteur privé, des entreprises. C'est où est-ce que vous avez l'argent. Et ça nécessite le cadre pour les investissements, la sécurité pour les investissements, l'état de droit, parce que les investissements doivent être sécurisés ici. C'est la sécurité sur place, la sécurité physique maintenant, où c'est notre tâche, alors avec la force, alors de le sécuriser, mais aussi la restitution de l'autorité de l'État, le système judiciaire, et de créer le cadre pour l'investissement. Et ici, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et puis, les investisseurs privés, ils vont créer l'emploi. C'est pas toujours la question d'écrire un rapport ou d'un expert ou d'avoir des programmes. C'est pour moi toujours la mise en œuvre. C'est quoi si je voyage à l'Est? Qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de programmes, je vois beaucoup d'intentions, je vois beaucoup des papiers qui sont écrits, mais je ne vois pas suffisamment la mise en œuvre des programmes. Et ici, je crois, le secteur privé est beaucoup plus efficace que parfois les Nations Unies. Merci.
Merci. Peut-être, Florence, vous avez quelque chose à rajouter?
Oui, la question concernait l'unité de soutien à la stabilisation. Et cette unité qui veille à ce qu'il y ait un alignement entre le STAREC et le plan international de stabilisation pour l'Est de la RDC. On est dans la deuxième phase de ce plan international de stabilisation pour l'Est de la RDC. Des études ont été faites et un appel à projet a été lancé. Donc actuellement, si, comme vous le laissez entendre, des recrutements dans des secteurs spécifiques ne sont pas encore intervenus, c'est parce qu'on est pour le moment à la phase de l'appel à projet pour la mise en œuvre dans le cadre de cette deuxième phase. Je vous remercie.
Merci pour ce complément d'information, Florence. Nous revenons ici à Kinshasa et nous allons prolonger cette rencontre d'encore 5 minutes. Une question à gauche ici à Kinshasa. Oui. Allez-y, madame. Vous avez déjà le micro. Allez-y.
Léa Westerhoff de RFI. Je voulais vous demander si vous avez une réaction à l'arrestation du chef des renseignements rwandais, Emmanuel Karenzi Karake. Est-ce que vous appelez, comme pas mal d'ONG congolaises, à ce que les chefs d'inculpation, ou est-ce qu'en tout cas cette personne soit également poursuivie pour les crimes éventuellement commis en République démocratique du Congo contre des civils? Et puis pour revenir sur le processus DDR, donc j'ai bien compris qu'il n'y a pas assez d'argent, on a vu qu'il y avait eu des tensions à Kotakoli, il y en a eu aussi à Kitona. Quelle est votre position? Est-ce que vous ne regrettez pas les retards pris dans ce processus de désarmement, sachant que le plan DDR 3 a été lancé en juillet l'année dernière? Merci.
Voilà, merci pour la, pour votre, la, en ce qui concerne votre première question. Non, j'ai pas de réaction ici. Je ne vais pas faire des commentaires sur l'arrestation au dehors ici de la RDC. Et j'ai pleine confiance en l'état des droits des, voilà, des tribunaux et des autorités en Europe. En ce qui concerne les, le plan national DDR3, vous avez totalement raison et aussi je partage votre voilà, frustration sur le manque du progrès. Mais comme j'ai dit, maintenant, on a vraiment un nouveau ministre de Défense. Il a pris charge du dossier. On avait des voyages conjoints avec mon adjoint David Cressley à Kamina, à Kitakoli. On a inauguré officiellement le programme DDR, plan national DDR numéro 3. On commence avec la démobilisation. En ce qui concerne Kitakoli, j'ai fait très clairement, j'ai fait très clair ce que je pense. Il faut les relocaliser et transférer dans les autres camps. Et il faut maintenant vraiment commencer. Mais c'est aussi le défi de la communauté internationale. Sans argent, on ne peut rien faire. Et c'est le problème. Le plan national numéro 3 doit être financé. C'est premièrement l'obligation du gouvernement, les 10 millions. Alors, on a, ce que j'ai dit, 1,5 million. C'est la communauté internationale. Nous avons nos 6 millions. Mais seulement to bridge the gap pour vraiment maintenant agir rapidement pour soulager alors la souffrance. Ce sont 6 millions de nous pour la démobilisation. Et puis la communauté internationale doit aussi partager. C'est pourquoi nous avons le Trust Fund de la Banque mondiale. Et j'encourage la communauté internationale aussi de financer. Mais aussi je comprends les bailleurs de fonds s'ils pensent, c'est aussi le gouvernement congolais qui doit contribuer ici parce que c'est leur pays, ce sont leurs combattants, c'est leur programme, c'est le programme national de DDR numéro 3. Mais je partage aussi l'impatience un peu qu'il faut faire maintenant, il faut faire vite parce que on voit la situation sécuritaire à l'Est. Nous ne voulons pas que les ex-combattants de Niatoura quittent les camps et rentrent et retournent à l'Est du pays. Alors c'est pourquoi il faut vraiment leur donner une option. Une option pour la paix, une option pour la vie civile, pour l'intégration dans la vie civile.
Merci. Une dernière question ici à Kinshasa avant de partir à Goma pour deux questions où nous mettrons fin à cette conférence de presse. Une question à droite, s'il vous plaît.
Oui, c'est M. Alain Waikani, la télévision centrale de Chine. Monsieur le représentant, moi je reviens sur le FRPI. Vous avez dit que vous avez rencontré quelques gens avec qui vous avez parlé. Moi je veux savoir avec qui, s'il faut aujourd'hui négocier, parce que vous avez dit que la guerre ne va pas résoudre le problème des FRPI. On va négocier avec qui? Est-ce qu'il y a un interlocuteur valable que vous avez retrouvé dont la MONUSCO peut aujourd'hui espérer, s'il faut vraiment négocier, on peut entamer quelque chose avec les FRPI? Est-ce qu'il y a quelqu'un, selon vous, après l'arrestation de Kobra Matata? Merci.
Voilà, le système est très très clair. Nous avons eu un système en place de ceux. C'était géré par le chef de la division unique à Bunia, à Ituri. Et c'était très très clair. C'est le partenaire de négocier. On avait une commission de 25 du côté de la RDC. Et on a des FRPI, des commandants des FRPI qui ont été là. Mais ils ont quitté la table de négociation. Alors la porte est toujours ouverte, en particulier la porte envers le DDR. Nous avons un camp de DDR par là. Je l'ai vu hier, avant-hier. Nous sommes en train de construire maintenant un autre camp. Mais on a seulement combien? 36. Hein? 36 qui sont maintenant ici, c'est pas grand-chose. On ne sait pas exactement combien de combattants on a, mais je dois dire une chose. J'admire les mamans que j'ai rencontrées, les mamans à Veba et aussi à Bukiringi, qui ont une vue particulière. Ils veulent la paix et seulement la paix. Ils veulent que leurs fils ne combattent pas. Et c'était très très impressionnant. Nous avons fait les préparations, nous avons diffusé par Radio Kapi, par les radios aussi communautaires à Veba, aussi radio, les radios DDR, les messages pour les FDLR. Ça vaut pas la peine de continuer le combat. Abandonner les armes, c'est très facile maintenant. C'est pas maintenant le temps de négocier parce qu'on a offert les négociations, ils ont rejeté les négociations. C'est maintenant pour les commandants de dire, alors encouragez vos gens et vous-même, alors de se rendre sur notre appui.
Merci Monsieur Kobler. Direction Goma pour prendre deux dernières questions. Goma.
Oui, merci. Oui, merci Félix. Première question de Goma à ma gauche.
Merci pour l'expression d'Arène Maurice, canal de télévision. Alors ma question, je l'adresse à Major Gossalves. Comment se fait-il que vous soyez engagé sur plusieurs fronts à la fois, c'est-à-dire à Beni, dans le cadre de Sokola 1 et où toutes vos forces sont concentrées pour le moment, et aujourd'hui à Ituri? Et la deuxième question,
s'il vous plaît. Une question à Goma. Donnez la chance à quelqu'un d'autre de poser la deuxième question.
Ok, Major, vous pouvez répondre à la question.
Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que la MONUSCO n'a pas vocation à voir mourir des âmes innocentes sans rien faire. C'est pour cela que, tant que c'est possible, la MONUSCO essaie d'apporter son soutien au FARDC pour ramener la paix dans ce pays que tout le monde aime si tant.
Merci pour ces informations. Je vais peut-être rajouter à la suite du Major. Je vais peut-être rajouter, votre question est très pertinente parce que vous avez posé là la question de la capacité opérationnelle de la MONUSCO à résoudre ou en tout cas à neutraliser les groupes armés. Vous savez, il faut d'abord remettre tout ça dans le contexte global qui est la résolution 2211 qui nous demande de neutraliser tous les groupes armés opérant en RDC. Les besoins sont nombreux, ils sont divers, ils sont un peu disséminés dans toute la RDC. Le FRPI est une priorité aussi compte tenu des exactions nombreuses, récurrentes qui sont exercées sur les populations civiles, mais aussi compte tenu du fait que ce processus de reddition volontaire qu'ils avaient initialement entamé n'a pas abouti compte tenu du fait qu'ils ont décidé de sortir de la table de négociation. Évidemment, Beni est une préoccupation aussi. Nous sommes obligés de prendre en compte les menaces sécuritaires ou la menace de manière globale, de manière assez, comme vous le dites, large, mais avec aussi la contribution des FRDC. Et ensemble, vous voyez que les choses sont en train de s'améliorer. Oui, une deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Allez-y, toujours à ma gauche.
Bien, je suis Albert Kambale pour l'agence France Presse. Ma question s'adresse au porte-parole par intérim des forces onusiennes. Est-ce que nous pouvons savoir le bilan de l'éboulement qui s'est passé la semaine dernière à Roubaïa? Parce que dans votre rapport, vous n'avez pas fait mention à cela. Et la MONUSCO va-t-elle intervenir pour la libération du journaliste Roberto Kitukaonge qui a été amené à Mounzenze ce matin? Merci.
Merci, monsieur le journaliste. S'agissant de l'éboulement, moi je crois que ce n'est pas une question militaire. C'est une catastrophe naturelle. Si nous entendons bien.
Oui. Le bilan, vous allez.
Le bilan, s'il vous plaît.
En tant que journaliste. Vous avez le bilan?
Oui, allez-y.
Vous avez le bilan? Non.
Merci.
Nous, journalistes, confrères, c'est à vous de déployer vos équipes pour avoir cette information à la base. Le porte-parole militaire, comment vous voulez qu'il donne, c'est encore une activité civile.
Merci Goma pour cette dernière précision. Nous allons mettre fin à cette conférence de presse qui est allée au-delà des limites qui étaient initialement prévues. Merci pour tous ceux qui sont restés en notre compagnie. Merci aux auditeurs de Radio Okapi. À la prochaine. Merci et bonne journée.
Bonne journée. Merci. Bonjour, ça va? Voilà.
Et vous? Oui, non, je suis pas. Monsieur Ban.
Bonjour.
Merci. Bonjour.